Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un nouveau parcours de vie féminin, plein de surprises, mais surtout de détermination. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Najwa Naïm, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, la Najwa?
Ça va, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça va, alhamdoulilah, tout va bien.
Alors, Najwa, toi, tu es psychologue et artiste. En fait, écouter, c'est ton métier de psychologue et raconter des histoires, c'est ton côté artiste.
Exactement.
La psychologie, après, tu es arrivée comment?
Ouf, c'est une grande histoire.
C'est souvent une histoire personnelle qui nous amène à la psychologie.
Oui, ça peut l'être. En tout cas, dans mon cas, moi, je suis née au Maroc, grandie au Maroc, à Mohamedia. Et comme tous les enfants de ma génération, on n'avait que trois carrières qu'on pouvait faire. Genre, ingénieur, médecin, une grande école de commerce. Et du coup, je suivais mon petit train normal. Donc, j'ai fait mon parcours en mode excellence, en mode normal. Donc, j'ai fait une grande école de commerce. J'ai commencé à travailler dans mon entreprise. Et c'était vraiment bizarre dans le sens où le jour où j'ai eu mon diplôme, dans mon école d'ingénieur, j'ai senti que c'est bon, je suis plus redevable à mes parents que j'ai fait le diplôme pour eux. Et après, une fois que j'étais dans le monde d'entreprise, j'étais pas bien. Enfin, je me sentais vraiment pas bien. C'est-à-dire, j'avais plus de sens. Je sentais pas vraiment que j'étais dans ma place. Et pourtant, tout se passait bien.
Ouais.
C'est-à-dire, tout se passait bien. Les chiffres étaient vraiment bon, mais moi j'étais pas heureuse.
Tu n'aimais pas ce que tu faisais.
Mais j'étais pas épanouie. J'étais pas.
Il te manquait quoi en fait? Tu sentais qu'il te manquait quoi exactement?
Le sens.
Ouais, beaucoup m'ont dit le sens. Est-ce qu'il n'y a pas de sens dans ce genre de carrière? Et c'est de quel sens en fait? Est-ce que c'est le sens humain? C'est quel type de sens? Parce que la notion de sens reste subjective.
Bien sûr, je pense qu'il faut pas qu'on généralise. Je pense que, en tout cas, moi personnellement, c'était pas mon rêve d'enfant. Moi, j'ai toujours fait des choses artistiques, mais à l'époque, c'était pas pour faire un métier. J'ai toujours aimé la littérature, mais j'ai fait un parcours de sciences maths. Enfin, parce que c'était pas des métiers en quelque sorte qui font vivre.
C'était valorisé en fait.
Exactement. Et je pense que la problématique, ce qui se passe dans tout ce qui est dans le monde d'entreprise, je pense qu'il y a ce côté très productivité et que finalement, le sens se perd dans le trop de productivité parce qu'il n'y a plus assez de moments pour soi, des moments d'instant présent, je pense.
Donc, tu as passé combien d'années dans le monde de l'entreprise?
De l'entreprise, je pense que j'ai passé 6 ans, il me semble. Et après, en parallèle, j'avais repris mes études à partir de zéro. Donc, j'ai fait un autre bac plus 5 en psychologie.
Tu l'avais annoncé aux parents ou là, pas du tout?
Au début, en fait, même le parcours, parce qu'au début, j'ai fait une inscription, ça n'a pas marché. Et du coup, au début, quand j'ai annoncé à mes parents, au début, enfin, mon père, il était contre. Et puis, à partir du moment où ils ont su que c'était vraiment ma voix, ils sont devenus un peu mes sponsors. Donc, ils m'encouragent maintenant dans tout ce que je fais. Ouais. Mais au début, c'était compliqué, à vrai dire.
Est-ce que tu avais annoncé la couleur dès le départ?
Pire, j'avais annoncé que je ferai ça à mi-temps. Et l'autre mi-temps, ce sera pour ma carrière artistique. Donc, je pense que c'était beaucoup de choses.
C'était beaucoup de choses entre... J'annonce... Oui, exactement. C'était beaucoup de choses pour eux. Est-ce que parfois, vous avez cette discussion ensemble de ce diel qu'on ne rire pas de dire les brites, mais l'oul?
L'oul, mais bon, finalement, je me suis dit... Avec le recul, je me dis la vie, elle est bien faite parce que heureusement, finalement, j'avais fait une grande école de commerce parce que grâce à des matières comme tout ce qui est gestion de projet, marketing, etc., enfin, communication, que ça me permet aussi, j'utilise ces skills en quelque sorte dans ma vie de tous les jours et de justement de partir, de switcher entre un domaine et un autre, ça me, enfin, ces skills elles sont importantes je trouve. Donc finalement je me dis c'est bien, c'était le bon choix finalement, ils ont fait ce qu'ils ont pu et puis voilà, enfin je pense qu'à l'époque pour eux c'était parce qu'il y a les carrières qui étaient les mieux payées.
Ils pensaient bien faire, comme on dit.
Exactement.
Alors, justement, Najwa, j'imagine qu'en tant que psychologue, tu reçois des gens qui viennent dans la même situation que toi il y a quelques années. C'est un peu perdu. Est-ce que je fais un changement de carrière? Est-ce que... Donc, tu es capable de ressentir ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ressentent.
Exactement. Je pense que oui, je reçois vraiment beaucoup de personnes, que ce soit qui ont de l'anxiété, qui ont justement ce côté de « j'ai envie de changer de ma carrière, mais je ne sais pas comment, etc. » Et un peu ce que je conseille un petit peu à tout le monde, c'est de faire un bilan et de se poser justement en se posant des fois des questions essentielles et de se dire aujourd'hui j'en suis où dans ma vie et par rapport, j'aime beaucoup utiliser une roue d'un monsieur américain qui s'appelle Paul Meyer et du coup cette roue il y a 8 piliers, il y a un pilier justement travail, argent, environnement, pro et perso, bien-être et santé, famille, amour, loisirs et soi. Et du coup, je leur demande de poser leur bien-être dans chaque pilier, en fait, de vie. Et en fait, généralement, ils prennent vachement de recul parce que finalement, le travail, ça fait qu'une partie de nos piliers de vie. Et c'est pas aussi très important. Enfin, c'est important.
C'est important,
mais
ouais.
C'est juste un pilier.
Est-ce que le travail aujourd'hui, dans la vie des gens, de par aussi ton regard de professionnel, tu vois, tu as presque ce regard macro sur cette situation. Est-ce que le travail prend émotionnellement trop de place?
Oui, il prend beaucoup de place, effectivement. Il prend beaucoup de place et on est en quelque sorte endoctriné pour qu'il prend beaucoup de place. Donc le plus important, c'est de prendre le recul et se dire c'est qu'un pilier parmi d'autres, en fait. Il est aussi important que la famille, voire des fois la famille, ça dépend des valeurs de chaque personne, mais en tout cas, c'est un des piliers, des 8 piliers, mais il n'est pas le seul pilier dans notre vie.
Quand tu dis endoctriné, alors je vais te parler en tant que mère. Je suis moi-même perdue, je ne sais pas en fait ce qu'il faut faire. Parce que, comme tu dis, nous, on a grandi avec cette notion de l'excellence, cette pression de l'excellence. Et on sait, en tant que parents aujourd'hui, que cette pression de l'excellence n'est pas forcément bonne parce que la vie nous apprend justement qu'on peut se développer au fur et à mesure, découvrir ses vocations, continuer à s'améliorer. Et puis, quand ça émane de soi, c'est encore mieux. Mais en tant que parent aujourd'hui, je me dis... il y a quand même un juste milieu. Je ne peux pas ne pas parler de rendement scolaire sous prétexte que si j'en parle, eh bien c'est une forme de pression. Et je ne veux pas donner cette pression à mes enfants. Je ne veux pas l'exercer sur elles. Mais en même temps, je suis leur mère, je suis leur parent. Je dois veiller à ce qu'elles fassent de leur mieux parce que je... sinon, je risque de m'en vouloir aussi. Vraiment, je suis dans ce dilemme. Et beaucoup de parents, enfin, on échange aussi avec beaucoup de parents, notamment sur les réseaux sociaux, la communauté de femmes d'aujourd'hui, etc. On est dans ce dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, pour moi, c'est vraiment là, tu me tends un piège et tu n'es pas parent.
Tu es psy.
Parent, je pense que j'allais tomber vraiment dans le même piège, clairement, dans le même dilemme. Comme professionnel de santé, ce que je peux dire, c'est que un équilibre en quelque sorte. Il faut chercher un équilibre. Et cet équilibre, est-ce que mon enfant, est-ce que je lui demande trop? Est-ce que Ou est-ce que ce que je lui demande, c'est justement pour le challenger, pour son bien-être, etc. Et aussi, il faut se poser la question, là, en parlant à mon enfant, est-ce que finalement, c'est une projection que je fais de moi-même, de ce que mon enfant intérieur avait besoin à l'époque. Et comme ça, peut-être, on fait un peu la nuance entre les deux. Est-ce que finalement, quand je parle à mon enfant, est-ce que c'est une manière de réparer mon enfant intérieur et je me parlais à l'époque?
Si je ne lui mets pas la pression, par exemple. Si je ne lui mets pas la pression, l'idée n'est pas de lui mettre la pression.
Parce que finalement, les histoires humaines, c'est des histoires de projection et de contre-projection. Et de faire attention des fois aux projections qu'on fait. Est-ce que c'est notre histoire qu'on est en train de répéter d'une manière ou d'une autre?
Alors justement, toi, Najwa, j'imagine avec ta décision de changer de cap de vie, tu as voulu rompre avec la projection de tes parents.
Exactement. À vrai dire, enfin, franchement, je suis contente parce que, comme je te disais tout à l'heure, au début, ils étaient contre, mais après, aujourd'hui, ils sont derrière moi, ils me soutiennent, je sais qu'ils sont fiers de moi, même si des fois, ils ne comprennent pas trop. Petite dédicace à mon père, des fois, il ne comprend pas trop ce que je suis en train de faire ou pour lui, peut-être, je m'éparpille.
Parce que tu es entre la psychologie et l'art, c'est ça?
Ouais. Alors que pour moi, je suis dans ma place, quoi. donc je pense des fois c'est difficile pour eux parce que ils savent pas trop, c'est l'inconnu. Je représente cet inconnu justement. Je représente ce métier pas stable. Je représente ce côté, enfin un peu toutes les projections des métiers qui sont non stables, notamment dans l'art.
Et qui font peur.
Et qui font peur. Donc je pense que c'est pas évident pour eux.
Est-ce que c'est vraiment des métiers non stables ou là c'est un préjugé?
Là, c'est un métier non stable.
C'est une réalité.
C'est une réalité, clairement. Justement, enfin, j'ai de la chance parce que je suis quand même une professionnelle de santé. Ça reste un métier un peu stable, mine de rien. Mais
tu as ton compte ou bien tu travailles
dans une institution?
Ouais,
non, je suis dans mon, enfin, j'ai mon propre cabinet à Bordeaux, donc c'est à mi-temps, donc il y a des charges, donc il y a beaucoup de charges pour le mi-temps, du coup. Donc effectivement, oui, il y a une non-stabilité, clairement. Après, le métier artistique n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, je suis payée d'amour et d'air fraîche.
Monsieur d'amour et d'eau fraîche. Qu'est-ce qui fait, justement, Najwa, que tu as pu te détacher de cette crainte et peur du matériel? Parce que cette liberté, quand on se la donne, c'est qu'on se détache en quelque sorte du matériel.
C'est une très très bonne question. Je pense clairement mon bien-être. Ce que je te dis depuis tout à l'heure, par exemple, je suis dans ma place. Le fait que comment je sais que je suis dans ma place, c'est que je suis vraiment alignée avec mes valeurs et je suis bien. Vraiment, je suis bien. Des fois, c'est très compliqué parce que il faut pas se leurrer la face parce que des fois, justement, même les peurs des autres, des fois, ils nous envahissent. Des fois, ça nous pose des questions.
Comme quoi, par exemple?
Clairement, par exemple, si je tombe malade, comment je vais vivre? Parce que il n'y a pas cette sécurité, justement. Mais encore une fois, je pense pour moi mon bien-être il prime pour le moment et je me sens bien. Enfin, c'est-à-dire, je suis alignée, je sais quand je suis avec mes patients et mes patientes, j'ai vraiment plein d'énergie et je les écoute, je les accompagne vraiment. Je suis dans l'instant présent. Quand je suis dans le domaine artistique, j'apprends plein de choses. Je suis encore une fois épanouie. du coup, pour moi, c'est cet équilibre-là qui me porte pour le moment.
Pour le moment, exactement. Mais en même temps, tu restes... Alors, se détacher du matériel, justement, est-ce que ça veut pas dire non plus ne pas être réaliste?
Bah, il est nécessaire d'être réaliste, comme je te disais tout à l'heure. Enfin, je paye des charges, par exemple, si c'est le cabinet. Donc, je suis obligée d'être réaliste. Je suis obligée, de, par exemple, des fois, de dire non à certains projets artistiques pour que je puisse payer mes charges. Donc, vraiment, pour moi, c'est cet équilibre entre les deux. Bien sûr, si je compare ma vie aujourd'hui en termes de salaire à ma vie d'avant, c'est lunaire, clairement. Mais je me sens beaucoup plus épanouie. C'est ça ce qu'il faut.
C'est ça, en fait, c'est de se dire
la moitié de mon salaire.
Oui, mais j'imagine des fois, je ne sais pas, est-ce que tu te dis, j'aurais tellement voulu, je ne sais pas moi, parce que acheter ça ou partir à tel endroit, faire tel voyage, mais aujourd'hui, je ne peux plus me le permettre.
Franchement, on trouve les moyens. Vraiment. Par exemple, si tu anticipes, tu peux prendre des billets pas chers. Ce n'est pas parce que, par exemple, que, au contraire, je n'ai jamais autant voyagé que maintenant. Clairement.
Ouais.
Tu anticipes, tu gères les choses différemment, tu réfléchis différemment et tu arrives. Et c'est ça ce qui est fou. Et finalement, tu te rends compte que le matériel, finalement, c'est qu'un outil et ce n'est pas l'objectif.
Est-ce que ce côté matériel, c'est ce qui fait le plus peur aux gens pour changer de cap de vie?
Je pense que oui.
C'est le principal frein.
Ah, mais parce que c'est pas évident. Enfin, clairement, c'est pas évident. C'est vraiment parce que je pense que on est. C'est quelque chose qu'on nous a dit quand on était enfant, qu'on nous a redu qu'il faut justement avoir
une sécurité,
un métier pour être bien payé, quoi. On ne nous a jamais dit qu'il faut avoir un métier pour être épanoui. Être bien payé.
Pour être bien payé, pour être... je pense que, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que même pour les femmes, il y a plus de pression. Non, parce que les hommes ont grandi avec la pression de dire ce qu'on a rajouté, l'hôtesse d'art, etc. Et la femme aussi, c'était, je pense, le discours le plus récurrent, c'était il faut que tu sois une femme indépendante, que tu ne dépendes pas d'un homme. Donc, en fait, non seulement que tu trouves un métier, mais que tu le gardes parce que c'est le gage de ton indépendance.
Exact. C'est quelque chose, les femmes, je pense, elles ont pas mal. Par exemple, quand je pense à ma grand-mère ou quelque chose comme ça, c'est un discours qu'on entendait souvent. Où elle est qui, finalement, je pense aussi que le monde où on vit actuellement, c'est un monde qui est tellement flexible et ambigu. Ce côté de rechercher cette stabilité ou se dire que la stabilité est stable finalement, limite, c'est un paradoxe en fait, parce qu'on l'a vu avec le Covid que rien n'était stable. on a vu par même les guerres qui se passent actuellement, etc. Donc rien n'est stable finalement. À quoi bon chercher un métier stable?
Mais justement, rien n'est stable, mais cette stabilité d'aujourd'hui est perçue comme le bouclier contre l'inconnu de demain.
Oui, clairement. Mais est-ce que finalement être stable pour être stable sans être bien, est-ce que ça vaut la peine? Mais tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et c'est pour ça, depuis tout à l'heure, je te dis pour le moment, parce que j'en sais rien demain, qu'est-ce qu'il est fait, c'est quoi les choix que je ferai demain, etc. Mais en tout cas, pour le moment, je pense le curseur à mettre, c'est son bien-être, quoi. Parce qu'on ne peut pas... justement être heureux, ou on ne peut pas même répondre aux besoins des autres si on n'est pas heureux et épanoui.
Najwa, tu sais, ça me rappelle... j'ai entendu quelqu'un expliquer ça récemment, je ne me rappelle plus. Un spécialiste dire que finalement, ce besoin de bien-être constant était un leurre, parce qu'on ne peut pas être bien toujours, en fait. L'être humain ne peut pas être... Aujourd'hui, on est tous à la quête de cet épanouissement personnel. Mais c'est une notion, en fait, qui vient...
Biaisée,
qui n'est pas tenable, l'épanouissement. Parce qu'on se dit, quand on va se lancer dans ce qui me fait plaisir, ce qui m'épanouit, c'est que je m'attends à ressentir un bien-être, un bonheur intérieur qui va aller en exponentiel. Alors que ce n'est humainement pas possible.
Exactement, exactement. Après, je pense que, en tout cas, le bien-être, c'est un concept. C'est comme tous les concepts, c'est très subjectif et que chacun y met derrière un peu la perception qu'il entend derrière le mot bien-être. En tout cas, ma conception du bien-être est c'est que l'individu, il est aligné avec ses valeurs. Et j'ai une croyance assez forte que le moment où on n'est pas aligné avec nos valeurs, c'est que on va être vraiment dans limite, on peut être dans une extrême, on peut développer une anxiété ou une dépression, quelque chose comme ça, parce qu'on n'est pas aligné avec nos valeurs qui forgent nos croyances en quelque sorte. Je pense que c'est ça ce qui est recherché, c'est se dire finalement, est-ce que le métier que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce qu'il répond à mes valeurs? Et du coup, ou est-ce que dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire par exemple des fois, les métiers qu'on peut faire, ça ne répond pas forcément à nos valeurs, mais on est OK avec ça parce qu'à côté, c'est-à-dire on a des passions ou on a des choses dans nos vies personnelles qui font que ça fait un équilibre. Mmh. Donc vraiment, pour moi, c'est cette recherche d'équilibre à questionner, parce qu'effectivement on ne peut pas, c'est-à-dire même si on fait, depuis tout à l'heure je te dis, je suis dans ma plage, je suis dans un métier et deux métiers qui m'épanouissent, mais ça ne veut pas dire que c'est rose tout le temps, ça ne veut pas dire que c'est jamais négatif ou c'est jamais challengeant, au contraire. Justement, enfin, une des choses la plus challengeante, c'est cette question par exemple financière et autres, enfin, il y a plusieurs choses qui challengent des métiers comme ça, mais pour moi le plus important c'est l'équilibre, en quelque sorte cette recherche d'équilibre et se poser cette question, est-ce que là je me sens équilibrée ou je sens que c'est bien, c'est OK pour moi, et que c'est cette question de valeur, est-ce que ce métier ou est-ce que ce que je fais, et c'est aligné avec mes valeurs, quoi.
Aujourd'hui, tu es en France ?
Oui, je suis entre la France et le Maroc, donc mon cabinet est en France, mais je travaille beaucoup en termes de photographie sur la mémoire du Maroc, donc je fais pas mal d'allers-retours au Maroc.
Ce besoin de travailler sur la mémoire, ça te vient d'où ?
Ouf, la mort de ma grand-mère.
D'accord.
J'ai perdu ma grand-mère en plein Covid. Les frontières étaient fermées. J'étais ici en France, à Bordeaux. Et voilà, enfin, j'avais eu cette obsession justement pour figer les images et figer les mémoires, en quelque sorte.
Et là, en fait, c'est quoi ? Tu essaies de capter des moments avec les autres ? Pour ne pas vivre ce que tu as vécu avec son départ ?
Je travaille un peu sur le patrimoine. L'idée, c'est d'archiver ces mémoires-là qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou on a l'habitude de voir, mais ce n'est pas assez moderne en quelque sorte.
Najwa Naïm, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci,
merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.